Bonjour et bienvenue à Escale 1718 avec Fulgence Blanc au micro et Nicolas Swartman à la technique. Voilà, aujourd'hui mardi, j'ai pas de chroniqueur en première partie d'émission, donc c'est une demi-heure qui m'appartient avec des différents sujets. Et en deuxième partie d'émission, j'ai un invité, c'est le lieutenant-colonel, c'est bien ça, j'ai dit bien lieutenant-colonel à la retraite, Stéphane Leblanc qui va venir nous parler de l'histoire du 12e régiment blindé du Canada. C'est l'héritage militaire de Trois-Rivières. C'est sous sa direction que d'autres se sont joints à lui d'ailleurs pour écrire ce gros livre aux éditions Septentrion. Il est mieux placé que moi, bien sûr. Moi, je ne fais que le recevoir. Hein. C'est lui qui a de quoi nous raconter sur cette histoire du 2e régiment blindé du Canada, l'héritage militaire de Trois-Rivières, sous sa direction, lieutenant-colonel à la retraite, Stéphane Leblanc. Alors, restez à l'écoute. Après la petite pause publicitaire, oui, de la deuxième, première demi-heure de l'émission, première pièce musicale, et je le reçois, je vais être avec lui 2 fois 7, 2 fois 8 minutes, pour qu'on puisse découvrir un peu l'histoire de ce 12e régiment blindé du Canada, qui est l'héritage militaire de Trois-Rivières. Alors, je ne sais pas, moi aussi, ça va, je suis très curieux d'apprendre. J'ai beaucoup parcouru ce livre, il va, quand ça sort de la bouche du lieutenant-colonel Stéphane Leblanc, c'est que c'est sérieux. Voilà, c'est que c'est sérieux. On va en musique, Nicolas, comme d'habitude. On commence tout de suite avec Amir, toi.
J'ai plus honte de chialer devant la télé. Je me sens jamais saoulé, jamais quand t'es là. Disons que mon cœur est né quand notre amour est né. Ok, ok. Ouais, tu m'as demandé ce que je faisais hier. J'avoue, je suis sorti, je l'ai fait dans ton dos. J'ai invité ceux que t'aimes, ton père et ta mère. J'ai largué mon ego. C'est vrai que je suis un peu fier, pourtant je le fais sans effort. Poser le genou à terre sans métaphore. C'est vrai que je suis pas Molière, que je dis les mots comme ils sortent. Des bébés, je voudrais t'en faire, semer ta force. Toi, ne m'en veux pas si je te questionne devant Dieu et tous les hommes. Veux-tu être la personne? J'ai pas des craintes, juste une promesse que je veux ta main jusqu'à la fin. Mais facile à vexer quand on parle de toi. Tout s'est inversé quand tu m'as renversé. Ok, ok. Tous mes potes les plus durs, tu les as radoucis. Là je parle au futur depuis qu'il a ta voix. Tu m'as rendu docile avec diplomatie. Avec toi c'est facile. Chaque fois que mon cœur se ferme, ton cœur ouvre une autre porte. Pour squatter mon épiderme, t'es la plus forte. Alors je me mets à genoux, et tant mieux si je les écorche. Je veux te faire des bouts de nous, en quelque sorte. Toi, ne m'en veux pas si je te questionne devant Dieu et tous les hommes. Veux-tu être la personne? J'ai pas des craintes, juste une promesse, que je veux ta main jusqu'à la fin. Ne m'en veux pas si je te questionne devant Dieu et tous les hommes. Veux-tu être la personne? J'ai pas des craintes, juste une promesse, que je veux ta main jusqu'à la fin. J'ai jamais été aussi stressé, ni aussi sûr de moi. J'ai jamais été aussi pressé de le crier sur tous les toits. Si tu me dis non, je peux mourir. Si tu me dis oui, je peux mourir aussi. À toi de me dire si je suis vaincu ou invincible. Toi, ne m'en veux pas si je te questionne devant Dieu et tous les hommes. Veux-tu être la personne? J'ai pas des craintes, j'ai qu'une promesse. Je veux ta main jusqu'à la fin. Toi,
Ne m'en veux pas si je te questionne devant Dieu et tous les hommes. Veux-tu être la personne? J'ai pas d'écran, juste une promesse que je veux ta main jusqu'à la fin.
Amir, toi. C'est tout simplement toi, c'est le titre de la pièce. Amir Haddad. Ouais, ouais, ouais. Voilà, avant de passer à la prochaine pièce musicale, je vais parler un peu. D'abord, aujourd'hui c'est le 1er février, jusqu'à la fin du mois de février, c'est le mois de l'histoire des Noirs, ça c'est clair, en Amérique du Nord. Voilà. Alors, il y a des sujets, il y a des débats, il y a des choses qui vont se passer. Je pense bien que dans le courant du mois de février, je vais recevoir ici à cette émission Escale 17-18 quelques représentants de la communauté noire, que ce soit des artistes. Et cette année même d'ailleurs, c'est ce qu'on prend que c'est la 31e édition, si je ne me trompe pas. Ça doit être dédié, c'est uniquement, c'est le thème, ça va être fixé sur les artistes. C'est dû au fait que, bon, ils ont empêcher d'évoluer et d'avoir des prestations un peu par-ci par-là durant la pandémie. Donc c'est un clin d'œil à ces artistes. Je crois bien demain, je vais rentrer un peu encore dans un peu plus de détails. Et en matière de littérature, par exemple, il y a le livre de Daniel Alferrière, Petit traité sur le racisme aux éditions Boréal, et puis Empreinte de résistance, filiation et récits de femmes autochtones noires et racisées, Alexandra Pierre, Remis Ménage, édition. Et puis, il y a Rends-moi fier de Nicole Denis Ben, édition L'Aube. Et puis, il y a quoi encore, là Notes de coton, je ne sais quoi. Edem Awimé. Voilà, je reviendrai sur ça de temps en temps. Il y a beaucoup d'activités jusqu'à la fin du mois de février. C'est pas seulement à Montréal, c'est dans toute la province du Québec. Et puis à David Chariandi, il est temps que je te dise, aux éditions du Portail. Et puis il est temps, qui encore là non, il est temps que je te dise, oui. Et puis il y a Happy Family de Kathleen Collins. Et puis Maman, la mère suivie du rendez-vous, Jackie. Et c'est Jenny Laguerre, bien sûr, prise de parole. Et puis, ouais, Nina Simone de Frédéric Adrien, le mot et le reste. Ça, je vais revenir là-dessus d'ailleurs, comme c'est la première journée du mois de l'histoire des Noirs. Pour ceux qui ne connaissent pas là, comment est-ce que la communauté noire ici est ficelée, ou bien comment elle se débrouille, ou bien comment elle vit du jour au jour, et ces situations, les acteurs, comment dire, les artistes, les entrepreneurs, les étudiants, les chercheurs, parce qu'il y a beaucoup de chercheurs dans la communauté noire aussi, d'enseignants à l'université, pas seulement que des humoristes et des chanteurs, ou bien des auteurs-compositeurs, ils sont dans presque tous les domaines. Donc ça permet un peu de faire un clin d'œil à toutes ces communautés artistiques, entrepreneuriales et autres durant tout ce mois de l'histoire des Noirs. Voilà, c'est la première journée aujourd'hui. Allez-y sur le site là-bas, sur le site du mois de l'histoire des Noirs, en un seul mot, .com, si je ne me trompe pas. Et puis, bon, vous allez avoir toute la programmation là-bas. Oui, ça c'est clair. Alors, pour les curieux, ceux qui ne sont pas de la communauté noire, qui aimeraient découvrir un peu, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que la communauté noire fait durant ce mois de l'histoire des Noirs? Vous allez avoir toutes les infos là-bas. Et je vais en parler d'ailleurs tous les jours ici, jusqu'à la fin du mois de février. Ne m'en voulez pas. Voilà. Environnement. Je ne sais pas, je voulais parler un peu de ça, mais je ne sais pas si je vais passer trop de temps là-dessus. En Groenland, il y a la calotte glaciaire qui a perdu plus de 4700 milliards de tonnes en 20 ans. Ça, je reviens, je vais tout de suite avec ça. Pourquoi reporter ça? Ouais, en 20 ans. Oui, oui, ça c'est quelque chose, vraiment, il faut le dire. Hein. Ces volumes de glace qu'il y a d'ailleurs, bon, merci beaucoup à l'agence France Presse qui nous balance tout le temps. Ils sont toujours à l'affût des nouvelles comme ça. L'AFP, c'est l'agence France Presse, bien sûr. Tous les éditeurs aussi, tous les journaux d'ailleurs, et vont chercher les nouvelles là-bas à l'AFP. Donc ce volume de glace fondue qui est à l'échelle de la superficie des États-Unis, hein, à l'échelle des États-Unis, la superficie des États-Unis, voilà, ça représente un demi-mètre d'eau. Un demi-mètre d'eau, particulièrement important sur les côtes du territoire autonome danois. On parle des pays de la Scandinavie, là, dont c'est une étude basée sur les observations satellitaires du programme GRACE. Donc, cette immense glacière du Groenland, qui a perdu ses 4700 milliards de tonnes en 20 ans, il contribue à elle seule une hausse des océans de 1,2 cm. Selon cette nouvelle donnée, c'est selon de nouvelles données publiées d'ailleurs cette semaine par la recherche danoise sur l'Arctique. L'Arctique, ça c'est important. Ben, ils sont là-bas, hein. Ils sont non loin de l'Arctique, là, les pays scandinaves. Là. C'est, faut pas. Donc, depuis le début des mesures en avril 2002, la calotte glaciaire du Groenland a perdu environ 4700 gigatonnes ou 4700 km3. Oui. Indique le Polar Portal et puis l'organisation chapeautant les instituts danois sur l'Arctique. Donc cette fonte a contribué à cet événement, à élever le niveau de la mer à 1,2 cm. Bon, les données montrent que la plupart de la perte de glace se produit sur les bords de la calotte glaciaire où les observatoires indépendants d'ailleurs font le travail aussi. Hein, indique que la glace est se rétrécit, que le fond glaciaire circule dans les fjords et à terre et que toute là est que la fonte est plus forte à la surface de la glace, yeah. Souligne l'organisme d'ailleurs. La côte ouest du Groenland est particulièrement concernée. Le réchauffement climatique est particulièrement alarmant. Oui, dans l'Arctique où il est intervenu ces dernières décennies à un rythme 3 voire 4 fois supérieur au reste de la planète. Oh mon Dieu, ouais, ça fait peur, hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas si Nicolas voulait ajouter un mot. Tu voulais ajouter un mot là-dessus, toi? Qu'est-ce que ça te fait pas peur aussi, toi, quand tu entends des chiffres comme
ben,
ça?
C'est sûr que ça fait peur. Puis aussi, on peut voir à travers les dernières années les inondations qui sont de plus en plus fréquentes à travers partout. Ouais.
Les inondations, et puis quoi, là? Les feux de forêt, les manchins, tout ça. Ouais, c'est ça. Y a, tout est lié, quoi. Ça dit que l'hiver, c'est extrême, les inondations, les glaces qui font. En été, c'est les feux de forêt. Ce qui se passe actuellement en Colombie-Britannique, tout ça, c'est l'effet qui tout se retrouve là. Ouais, c'est vraiment. Et donc, selon les climatologues, la calotte glaciaire du Groenland contient au total de quoi faire monter les océans de plus de 7 mètres, et l'Antarctique près de 50 mètres, même si les processus de fonte sont des phénomènes très lents. On ne voit pas ça à l'œil nu, mais ceux qui sont là-bas, qui vont travailler là-bas tout le temps, ces chercheurs-là, ces équipes-là voient ça, comment ça bouge. Oui. Ouais. C'est dans le même temps, la banquise arctique dont la fonte, elle, n'a, elle, pas d'effet sur le niveau des océans. Elle a aussi considérablement reculé pendant une moyenne de près de 13% de sa surface tous les 10 ans. Alors, moi, ça me fait peur. Bon, de toutes les façons, je ne suis pas immortel. Bon. C'est une façon de parler, non. C'est pour dire que il faut faire très attention. Heureusement qu'il y a des gens qui font ce genre d'études-là pour nous avertir, pour nous dire « Ah, il y a quelque chose qui ne va pas là ». Et ceux qui, jusqu'à présent, n'ont pas pris en considération le changement climatique, je ne sais pas ce qu'il faut encore pour qu'ils puissent croire aux données que les scientifiques qui mettent leur vie même en danger, quand tu vas faire des recherches là-bas, je les vois monter des cabanes, des maisons, des trucs sur la glace, là, ou bien non loin de là, dans des régions tellement reculées pour pouvoir essayer de suivre de près, aller poser leurs appareils, revenir, repartir. J'ai vu une émission dernièrement sur TV5 Monde, TV5 d'ailleurs qui parlait sur le front de la glace, des glaces. Alors ça fait peur, ça fait peur. Et tout ça, ça joue presque sur tous les océans, sur cette planète-là. Alors, les feux de brousse, l'été c'est extrême. L'hiver aussi, c'est pareil. Les inondations, le froid, les chutes de neige. Il y a des régions du monde entier qui n'ont jamais vu de neige, mais tout d'un coup, il commence à neiger. Voilà. Alors, où on va avec ça? Alors, on va à musique? Pour nous calmer un peu. Allez.
Je t'ai donné mon cœur avec tout ce qu'il contient. Oh non. Et toi comme un bandit, tu l'as poignardé, yeah. Mes rêves pour l'avenir, t'as mis ça de côté. Baby, toi et moi c'est fini. Faut quitter dans ma vie, oh. Je ne veux plus reculer. Je veux plus reculer. Bébé, laisse-moi avancer.
Bébé, laisse-moi avancer.
Je ne veux plus reculer. Pas de second mandat, faut que tu le saches. J'ai tourné la page, toi et moi c'est fini. Faut quitter dans ma vie, oh. Je ne veux plus reculer, je veux plus reculer. Bébé, laisse-moi avancer. Je ne veux plus reculer, je veux plus reculer. Pitié, laisse-moi avancer. Supporter les coups que tu me donnes, moi je m'en vais. Je peux plus rester, baby. Moi je me casse. L'amour c'est pas forcé, moi je m'en vais. Toi et moi c'est fini, faut quitter dans ma vie. Je ne veux plus reculer, je veux plus reculer. Bébé, laisse-moi avancer.
Voilà, chanson facile à reprendre, hein, le refrain Yéléléo, voilà, c'est comme ça. Alors, je vais continuer cette fois-ci avec la CAN 2022, les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, qui se sont disputés ce week-end au Cameroun, où ça se passe là d'ailleurs. Donc, on connaît les demi-finalistes. Oui, voilà, ça c'était pas compliqué, c'était facile. Quart de finale, c'est le Gabon, le Cameroun qui avait battu la Gambie 2-0, la Tunisie qui avait battu le Burkina Faso. Le Burkina Faso a battu la Tunisie 1-0. Ouais, c'était le 30 janvier, et puis bon, le 29 janvier, et puis le 30, l'Égypte. Voilà, c'est séparé du Maroc 2-1. Voilà, et puis le Sénégal a aussi s'est imposé face à la Guinée équatoriale 3-1. Donc les demi-finalistes, on les connaît. Le 2 février, c'est-à-dire demain, Burkina Faso Sénégal à 20h. Et puis bon, ben, le 3 février, après-demain, Cameroun-Égypte à 20h. Ouh, ça c'est un match choc. Même Burkina Faso Sénégal, c'est aussi un match choc. À partir de là, on connaîtra les finalistes. Ça c'est en soccer, football, la Coupe d'Afrique des Nations 2022. Voilà, pour les amoureux du foot, les Montréalais qui s'intéressent à tout ça, soyez à l'affût, ça commence demain, les demi-finales Burkina Faso Sénégal à 20h et Cameroun-Égypte. Le Cameroun, c'est le pays organisateur parce que ça se passe là-bas au Cameroun. Ça va être le 3 à 20h. De là, on saura bien qui seront les deux finalistes. Et puis les deux autres qui vont jouer la troisième place. Voilà. Et puis, bon, ben, voilà. Il y a des gens qui vont pleurer. Il y a des gens qui vont pleurer de joie. Ou bien d'autres vont pleurer de tristesse, comme on le dit souvent. Alors, moi, je dis toujours que la meilleure équipe gagne, que le meilleur pays gagne. Voilà. Je vais, avant de continuer avec le communiqué de presse du Musée des Beaux-Arts de Montréal qui parle de l'exposition du Suisse Nicolas Parti, l'heure mauve. Les billets sont déjà en vente. Je vais parler du décès du linguiste Jean-Claude Corbeil qui nous a quittés depuis le 25 janvier 2022. Ce grand linguiste Jean-Claude qui a notamment participé à l'élaboration de la loi 101, qui est décédé à l'âge de 89 ans. Voilà. Non, c'est d'ailleurs les éditions Québec-Amérique. Je n'en ai pas parlé la semaine passée. Ouais, je me rappelle bien, Nicolas. Il faut que je me suis dit, tiens, comme c'est quelqu'un qui aime la... C'est un linguiste, hein, aime la langue française comme moi, je l'aime aussi. Il faut parler de lui aussi quand même, sans ça. C'est un grand monsieur pour le Québec, hein, il faut le dire. Et vous voyez, c'est Montréalais, hein, et vous voyez une passion à la linguistique, bien un domaine dans lequel il est allé jusqu'à décrocher un doctorat à l'Université de Strasbourg en France. Bien sûr, ce engouement pour la langue l'a conduit à enseigner et puis à prendre la direction linguistique de l'Office québécois de la langue française de 71 à 477. Ouais. Donc, pendant cette période-là, il a participé à l'élaboration de la loi sur la langue officielle, puis de la charte de la langue française, mieux connue sous l'appellation de la loi 101. C'est l'une des grosses têtes là-bas. L'une des grosses têtes, disons. Dans les années 80-90, M. Corbeil a plutôt en ouvrir de sa carrière fait la recherche en linguistique. Ouais. Notamment secrétaire du Centre international de recherche et d'études en linguistique fondamentale et appliquée. Que la telle lui soit légère et, voilà, sympathie et condoléances à toute sa famille et à ses proches. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire encore là concernant... Voilà, je reviens sur cette exposition de Nicolas Parti, l'heure mauve. Les billets sont en vente. Hein? Donc, dans la prochaine exposition du musée des Beaux-Arts de Montréal. Hein? Et ouais. Réservé, ça se passe en ligne, hein? N'oubliez pas. C'est l'heure mauve. Nicolas Parti, je crois, c'est un Suisse. Voilà, les billets sont en vente dès maintenant. Le coût du billet admission générale est de $24 pour les 31 ans et plus et de $16 pour les 21 à 30 ans. Ouais, ça va, c'est pas mal. Ouais. Il faut profiter d'un tarif réduit à 12 dollars pour les mercredis soirs. Pour ceux qui aiment sortir les mercredis soirs, c'est $12, pas plus, quoi. C'est comme dans les cinémas quand on va voir les films. Les mardis soirs, souvent, c'est moins cher. Voilà, pour les cinéphiles. Donc, c'est l'entrée est gratuite en tout temps pour les 20 ans et moins. Il va falloir que je diminue mon âge. Hein, hein Nicolas, l'entrée gratuite pour les 20 ans et moins. Réservation en ligne, bien sûr. mbam.qc.ca/billetterie. Allez-y, réservez vos billets. Même si c'est gratuit quand même, il faut aller. Je ne sais pas, même si c'est gratuit, il faut aller s'inscrire. Hein, ouais, pour pouvoir. Ou bien c'est sur présentation de pièces d'identité. Quand vous avez jusqu'à 20 ans. Voilà, une pièce d'identité suffit pour que vous rentrez là-bas gratuitement pour aller voir cette exposition-là. Donc, il y a une avant-première exclusive aux membres, ceux qui sont membres du musée des Beaux-Arts de Montréal, en plus de bénéficier d'un accès illimité au musée, au webcine et d'invitation à des événements exclusifs. D'ailleurs, les membres profitent de 3 journées de visite en avant-première qui leur sont réservées, les 9, les 10 et 11 février. Voilà. Allez-y sur le site là-bas. Devenir membre si vous ne l'êtes pas encore pour savoir effectivement comment vous pouvez profiter de ces petits avantages quand vous êtes membre du musée des Beaux-Arts de Montréal. Ouais, Nicolas Parti, l'heure mauve, considéré comme l'un des chefs de file de sa génération. C'est un jeune, hein, j'ai vu sa photo, ses vidéos là, quelques entrevues de lui là, je me suis dit il faut aller voir ça. Ouais, donc les billets sont en vente et qui prendra l'affiche d'ailleurs à partir du 12, c'est déjà clair, il n'y a pas de problème là. Non, allez-y. Donc les premières pour les membres, les premières réservées aux membres 10, 11 et 12. Et le 12, ça commence. 10 et 11. Et le 12, ça commence. 12 février 2022. En musique, on termine la première partie de l'émission avec qui? Avec Roger Rabin, Band Crisis.
Close Friday evening rolling. Ooh, this 9 to 5 is pinning me down. I can't win. Should I mention my concentration does get disturbed sometimes? With more birthdays and good now, a tribulation time. Well, every day is a brand new crisis. The maintenance just keeps rising. Say, how long can we keep fighting? Take it easy, can't afford to overload. Oh, and you know you've done your best, running so many jobs. Burn yourself into the ground to find you're in the same spot. I'm not asking for no miracles, no.
a moment in time. Find an open door of opportunity to change my life. 'Cause every day is a brand new crisis. Hey. But maintenance just keeps rising. Say, say, how long can we keep fighting? Yeah. Oh, I've got to take it easy. Can't afford to overload. Hey. Take it easy.
Brown Crisis de Radium. Merci à l'écoute. Après la petite pause publicitaire, je vous reviens avec notre invité, le lieutenant-colonel à la retraite, Stéphane Leblanc, qui va nous parler de l'histoire du 12e régiment blindé du Canada, l'héritage militaire de Trois-Rivières. Allez, à tout de suite. Après la première pièce musicale, notre invité sera avec nous pour parler de cette histoire du 12e régiment. Merci, à tout de suite.
17-18 avec Fulgence Blas.
All it took was a sound. I heard my heart hit the ground. You're not my type, but you're the one. Hey, not my type, but you're the one. Oh, now where you? One night with you when it's done, what you've been through and what I've been through, now it's done. And all it took was a sound. I heard your heart hit the ground. You're not my type, but you're the one. Plus two, plus three, living it up. Talk to me, talk to me. Living it up. Oh, one, plus two, plus three.
I heard your heart hit the ground.
On vient d'écouter Char Frank, I'm not my type. Voilà, il y a le lieutenant-colonel Stéphane Blanc qui est déjà au téléphone. C'est sous sa direction, d'ailleurs, que l'histoire du 12e régiment blindé du Canada à l'héritage militaire de Trois-Rivières a été écrite, d'ailleurs, avec voilà, tous les autres noms, là. Richard Aubry, Pierre-Olivier Lair, Ghislain Raza, Daniel Robert... Et c'est, voilà, sous sa direction, je ne sais pas là. Voilà, je vois sa photo ici. Qui est mieux placé que lui pour nous parler de ce 12e régiment blindé du Canada qui a été fondé le 24 mars 1871 sous le nom de Three Rivers Provisional Battalion of Infantry. Toutefois, il faut remonter jusqu'au 17e siècle pour trouver les débuts d'une présence militaire à Trois-Rivières avec la création d'une milice coloniale canadienne. Ces structures de recrutement continueront d'être utilisées sous le régime britannique et pendant tout le 19e siècle, bien sûr. Voilà, aujourd'hui, le régiment est l'héritier de cette histoire. Donc, lors de la Première Guerre mondiale, plusieurs membres de ce régiment sont enrôlés au sein du 178e bataillon canadien-français en combattant en France. Et tout au long de la Deuxième Guerre mondiale, ce régiment, devenu une unité blindée, reçoit de nombreux honneurs. Le 6 mai 68, par exemple, une deuxième unité de la force régulière est formée sous le même nom à Valcartier, dont depuis les deux unités coexistent, se démarque à de multiples reprises lors d'opérations nationales et internationales. Bonjour, lieutenant-colonel Stéphane Leblanc, comment allez-vous?
Bonjour, Monsieur Blas. Merci, ça va bien. Vous-même, merci de l'invitation.
Merci
d'introduction.
Ouais, merci d'avoir le temps de venir parler de ce beau livre d'histoire, ce qui a été écrit d'ailleurs sous votre direction. Comment vous avez pu réunir tous ces gens-là, toutes ces têtes?
Ben, c'est un petit peu la genèse du projet. On est dans l'année du 150e au régiment. Bon, malheureusement, ça tombe pendant la pandémie. Donc, il y a quelques activités qui ont été mises de côté à cause de la pandémie, mais il y a certains projets du 150e qu'on avait commencé il y a plusieurs années.
Oui.
Qui ont été montés un petit peu plus pour la postérité.
Oui.
Donc, on n'a pas besoin de rassembler 1000 personnes pour publier un livre.
Oui, oui.
Donc, on s'est dit, on va aller de l'avant avec quelques projets comme celui-là. Et puis, ça a été mon défi initial de trouver qui était bien placé pour nous ramener dans différentes époques du régiment. Puis vous avez nommé là, M. Aubry, c'est un ancien du régiment des années 70.
Oui.
Et puis c'est un auteur de romans jeunesse, donc déjà exposé à la chose littéraire. Donc je l'ai approché, il était heureux de se joindre à l'équipe.
Oui.
Monsieur Lair, c'est un officier qui sert présentement au 12e régiment blindé.
Et lui, il est encore en service, hein?
Lui est encore en service, puis il avait étudié en histoire, donc on l'a approché pour ça un peu, pour aller chercher un petit peu de son expertise d'histoire, d'historien.
Oui. Et Ghislain?
Monsieur Raza, c'est un ancien président de notre musée régimentaire qui est à Trois-Rivières. On a un petit musée au manège militaire à Trois-Rivières.
Oui.
Qui existe depuis une trentaine d'années. Monsieur Raza était notre président pendant une dizaine d'années. Il s'implique encore dans le musée. Et
wow.
a plusieurs écrits à son actif là, sur l'histoire du régiment. Monsieur Robert, même chose. Monsieur Daniel Robert, c'est notre historien régimentaire, présentement le curateur du musée. Qui a écrit souvent sur l'histoire de Trois-Rivières dans les premiers régimes français, régimes britanniques de Trois-Rivières.
Oui.
J'ai essayé d'aller chercher. C'est des bénévoles, hein? Tout le monde a fait ça de façon bénévole dans le cadre du 150e.
Oui.
C'est un projet de longue haleine qui est parti lentement. Pour se monter un petit manuscrit pour approcher les différentes maisons d'édition.
Oui.
Et puis, à notre grande surprise, Septentrion était assez gentil d'embarquer dans notre projet.
Oui, parce que là, vraiment, on leur dit merci et bravo à eux. Mais je vous dis merci aussi parce que là, vraiment, avec la collaboration de tous ces noms dont vous venez de citer, vous m'avez permis, moi, personnellement, de connaître l'histoire de Trois-Rivières. Ce livre permet de découvrir l'histoire de Trois-Rivières, la bataille de Trois-Rivières. 1634, fondation de Trois-Rivières. Et tout est là, même quand on ouvre la première, même la couverture, simplement toute l'histoire de... Je dis, mais...
C'est un petit peu ce qu'on s'est dit. Le régiment commence officiellement, comme vous l'avez mentionné, en 1871, le 24 mars, avec le Canada est fondé en 1867. Il y a une nouvelle loi sur la milice. Donc, le temps que tout le monde s'organise, Le régiment est officiellement fondé en 1871, mais
oui.
Nous, on s'est mis à regarder. Bon, ben, l'armée n'a pas été créée en 1871. Il y avait quand même des gens qui défendaient les colonies avant.
Oui,
ça.
Qui combattaient déjà.
Ben oui, c'est ça. Puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2012, le gouvernement du Canada, le gouvernement Harper, à l'époque, avait souligné les 200 ans de la guerre de 1812.
Oui, oui, oui.
Puis, plusieurs unités à travers le Canada s'étaient fait offrir de perpétuer la mémoire de certaines unités qui existaient pendant la guerre de 1812.
Oui.
Et le régiment, le 12e régiment blindé, s'est fait offrir de perpétuer les différentes unités paroissiales qu'il y avait en Mauricie pour garder justement la mémoire des gens qui avaient participé de près ou de loin à la guerre de 1812.
Oui.
Fait qu'on s'est dit, ben, on peut remonter jusqu'en 1812, on a quand même une connexion à perpétuer les unités de 1812. Et puis on s'est dit, pourquoi pas remonter encore plus loin, parce qu'on a quand même une certaine affinité avec Pierre Boucher. Le régiment présentement, les deux unités sont habillées pareil, autant le régiment de la réserve que le régiment de la régulière,
oui.
Le 12e régiment blindé, quand ils sont habillés en uniforme, ils portent sur leur collet les armoiries de la ville de Trois-Rivières. C'est une vieille tradition française qui remonte pour le Canada à la colonie, à la Nouvelle-France.
À la Nouvelle-France, oui.
On est une des dernières unités à encore porter les armoiries de sa ville d'origine sur les uniformes.
Wow.
Donc, on s'est intéressé à la chose d'où viennent les armoiries de Trois-Rivières. Et puis, dès le début du livre, là, on mentionne que c'est inspiré des armoiries de Pierre Boucher lui-même.
Oui.
Il a été le premier à former une milice organisée en Nouvelle-France. Donc, on étire un petit peu en disant que ben, le régiment perpétue d'une certaine façon le berceau de la milice coloniale en Amérique. De là, le début du livre qui débute en Nouvelle-France.
Oui, oui. Est-ce que les habitants, est-ce que les gens de Trois-Rivières connaissent leur histoire vraiment? Ils connaissent vraiment l'histoire de ce 12e régiment? Et puis, quand depuis la fondation de Trois-Rivières, et je ne sais pas, bon, peut-être les anciennes générations, mais la nouvelle génération, ceux qui ont pu mettre la main sur ce livre-là, ils vont se dire, mais je ne connais rien de ma ville, je ne connais rien de ma région.
Ben, peut-être, j'espère que non, mais c'est un petit peu ça l'idée. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on a essayé de s'éloigner un petit peu d'un livre carrément militaire ou trop militaire.
Oui, c'est un livre d'histoire en même temps.
C'est ce qu'on voulait faire. On a enlevé toutes les abréviations qui sont communes dans les livres d'histoire militaire habituellement.
Oui.
Donc, on visait, idéalement, on visait nos gens au régiment, donc les plus jeunes qui arrivent au régiment pour leur expliquer toute l'histoire du régiment, mais aussi la population en général,
oui,
en gardant ça accessible pour justement remonter là, aux origines de Trois-Rivières. Mais si vous allez dans le centre-ville de Trois-Rivières, il y a des endroits où on commémore justement Pierre Boucher, le parc Pierre Boucher.
Oui.
Il y a quelques... On en a mis dans le livre aussi. Là, vous avez le monument de la Violette aussi en ville. Donc, on a essayé un petit peu d'accrocher tout ça là, en Nouvelle-France pour nous emmener au régime britannique ensuite avec la guerre de
1812. Oui, oui. On va faire une petite pause musicale et puis bon, je vais vous demander, mais qu'est-ce qui vous a emmené dans l'armée?
Je vais essayer.
OK, d'accord. À tout à l'heure.
Okay, merci. Oui.
La rivière a pris les îles que je mets. Les clés du silence sont perdues. La rose trémière n'a pas tant d'odeur qu'on croyait. L'autant de secrets qu'elle chante. L'instant ne le porte plus.
Sylvie Desmarais, Petit Désespoir. Notre invité, Stéphane Leblanc, le lieutenant-colonel qui était, c'était sous sa direction que ce livre, Histoire du 12e Régiment Blindé du Canada, l'héritage militaire de Trois-Rivières. Alors, une question rapide là, avant de revenir sur vous-même, comment est-ce que vous êtes rentré dans, qu'est-ce qui vous a attiré dans l'armée? Comment est-ce que vous avez réussi à convaincre Paul Desmarais pour être...
c'est deux questions différentes.
Oui. D'abord, on va commencer par là parce que c'est lui le président d'honneur. Comment vous l'avez réussi à le convaincre?
On savait que M. Desmarais était intéressé à la chose militaire, surtout francophone. Je me trompe pas, il est honoraire avec les voltigeurs à Québec.
Oui.
Et un de nos généraux l'a approché pour demander pour son soutien pour notre 150e anniversaire.
Pour parrainer ce livre spécialement, c'est là.
Voilà, oui, c'est ça. Bon, on a plusieurs projets comme ça et puis on a approché certains dignitaires là, pour nous aider dans nos projets comme président d'honneur. Donc, M. Desmarais a accepté d'être notre président d'honneur pour notre livre.
Oui.
On a dû reporter le lancement qui devait avoir lieu au début janvier. On verra éventuellement si on peut se faire un petit lancement un peu plus officiel éventuellement.
En présentiel, comme on dit, quoi.
Pardon?
En présentiel, comme on dit, c'est-à-dire avec présence des gens dans une salle.
Oui, en présentiel, oui, c'est ça.
Oui.
C'est ça l'idée, mais finalement, on va peut-être regarder quand les choses vont... la poussière va tomber, comme on dit.
Oui, quand il va y avoir un semblant de normalité. Oui,
on a attendu 150 ans, on peut attendre
quelques
mois encore.
Alors vous, en tant que jeune homme, le jeune Stéphane, est-ce qu'il avait toujours en tête dans l'armée? Comment vous êtes allé dans l'armée?
Ah, oui, je pourrais vous dire oui. Au secondaire, j'étais dans les cadets. J'aimais bien ça. Je suis originaire de Montréal. Et puis, j'aimais les cadets, j'aimais l'école. Pour aller au cégep, c'est là qu'on prend notre décision. Hein, est-ce qu'on rentre dans l'armée après le secondaire 5?
Oui.
Et puis, je voulais continuer à l'école, ça allait bien, mais j'aimais aussi le côté militaire.
Oui.
Et puis c'est là que j'ai entendu parler du collège militaire, donc ça joignait l'utile à l'agréable.
Oui.
Donc
oui.
Je me suis retrouvé au collège militaire à Saint-Jean pour faire mon bac à Saint-Jean à l'époque.
Oui.
Et de là, après mes années, là... C'est là qu'on se trouve un métier après. Et puis, je me suis retrouvé au 12e Régiment Blindé du Canada.
Ouais, plus de 36 ans au 12e Régiment Blindé du Canada. Plus de 36 ans quand même, c'est presque un demi-siècle.
Ouais, moi, j'ai triché un petit peu. Là. J'ai été dans la force régulière pendant
pratiquement
26 ans. Donc, en étant au 12e régiment blindé de Valcartier. On est affilié, hein, on n'est pas là pendant 26 ans. On revient.
Ah, OK.
On est muté à l'extérieur, on revient à Valcartier dans différents grades.
Oui.
Et puis quand j'ai pris ma retraite de la force régulière,
oui.
Là, on m'avait approché à l'époque pour savoir si j'étais encore disponible à continuer à mettre l'uniforme à temps partiel dans la réserve pour venir aider notre régiment sœur à Trois-Rivières.
Mm-hmm.
Après ma sortie de la régulière, je suis rentré dans la réserve pendant une dizaine d'années. Donc, quand on additionne les deux, j'ai porté l'uniforme du 12e pendant plus de 30 ans, effectivement.
Si c'était à refaire?
Ah, j'ai adoré mon temps dans l'armée, oui. Ou pas avoir de regrets. Moi, j'ai étudié dans l'armée et puis j'ai eu des belles mutations. C'est une belle carrière à faire en famille aussi. Avec la famille, on a été mutés en Europe, un peu partout au Québec.
Mm-hmm.
C'est des belles expériences. J'ai pas de regrets.
OK. Alors, il nous reste 2 minutes. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore mis la main sur ce livre-là, moi, j'adore les belles photos à l'intérieur. Là, c'est pas seulement l'histoire de ce 12e régiment-là, c'est pas ça. Mais les belles photos, vous avez pu mettre la main sur ces beaux photos d'archives. J'ai dit, mais je ne sais pas combien de gens vous avez pu réunir pour faire ce travail, pour aller faire des recherches pour vous.
Oui, notre équipe de recherche, d'auteurs.
Oui.
plein de gens au régiment. Les deux régiments aussi ont participé là, quand j'écrivais à des gens, pour surtout dans le contemporain. Hein, on va jusqu'à l'émission de l'ONU, l'émission de l'OTAN.
Oui.
Quand je connaissais les gens qui étaient en Bosnie, en Afghanistan, ben, je leur demandais, as-tu une photo de quand tu étais en Afghanistan, quand tu étais à la crise d'Oka ou quelque chose?
Oui, Donc,
on a réussi à fouiller un petit peu. Et puis, comme je vous disais, on a un petit musée ici, dont je m'occupe maintenant comme bénévole, où on a quand même des bonnes archives. Là, ça fait au-dessus de 30 ans qu'on...
Vous n'arrêtez pas, vous?
Je m'intéresse à l'histoire du régiment particulier, donc je suis resté impliqué. Là, c'est mon hobby, si vous voulez.
Ça vous permet d'être encore utile à la communauté, quoi.
Moi, c'est ce qu'on se dit.
Ouais. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore lu ce livre-là, qui n'ont pas encore... Qu'est-ce que vous leur lancez comme message avant de nous quitter, s'il vous plaît?
Bien, si vous voulez voir l'histoire du Québec d'un autre œil, dans le fond, à travers des réservistes jusqu'en 1968, puis notre régiment est un petit peu spécial parce qu'il est devenu, avec une composante régulière en 1968 lors de l'unification des forces.
Oui.
Ça donne une perspective francophone aussi du corps blindé. Hein. Le 12e de la régulière,
oui,
est le seul régiment francophone au Canada de la force régulière. Donc, ça donne aussi une approche différente du corps blindé canadien.
Oui. Merci beaucoup à vous, lieutenant-colonel Stéphane Leblanc. J'aime vraiment, puis le sourire, je me suis dit là il devait faire rire, c'est sur le Bertin à l'époque quand il était encore de service. Merci beaucoup à vous et toute l'équipe qui a participé, qui ont pris part à la naissance de ce document historique, hein, enfin, il faut le dire. L'histoire du 12e régiment blindé du Canada, l'héritage militaire de Trois-Rivières. Vous m'avez permis de découvrir non seulement l'histoire du 12e régiment, mais aussi l'histoire militaire de Trois-Rivières. Merci beaucoup à vous et au plaisir, peut-être que, pour un autre numéro.
Oui, on ne sait jamais.
Voilà.
Merci beaucoup de votre intérêt.
Merci. Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir. On termine en beauté comme ça avec Moussa Manzini, Just Like Cape Town. Merci au colonel, au lieutenant-colonel Stéphane Leblanc à la retraite qui sous sa direction, se livre a pris naissance, a vu jour d'ailleurs, histoire 12e régiment blindé du Canada, l'héritage militaire de Trois-Rivières, aux éditions Septentrion. C'est déjà en librairie. Voilà, le lancement officiel n'est pas encore fait. Merci à toi, Nicolas. On se retrouve demain. Et je dis merci à vous aussi, auditeurs et auditrices, de votre fidélité. On se retrouve demain sur les ondes de Canal M à la même heure. Voilà, on est en réécoute. Hein. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, 5h du matin. Et sur ce, je vous dis ciao.